l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Début de semaine, début de présence midi. Très heureux de vous retrouver. Et puis à vous aussi, David Torchala, bonjour.
Bonjour à tous.
David Torchala, vous serez avec nous dans quelques instants pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et des journées un peu particulières, les journées Saint-François de Sales.
Oui, c'est la 29e édition, c'est la journée de rencontre des médias catholiques, voilà. De la presse chrétienne, voilà, donc c'est aussi des journées pour Radio Présence.
Exactement, et puis nous prendrons la direction de Tarbes avec à la rentrée littéraire de janvier, nous irons à la rencontre d'une petite maison d'édition indépendante, Arcane 17, pour évoquer son actualité et ses nouvelles publications en ce début d'année. Et puis enfin, nous accueillerons Monsieur et Madame Pinard, accompagnés. Monsieur Pinard sera accompagné de son épouse, atteinte de la maladie de Parkinson. Il viendra témoigner de la manière dont la foi les aide au quotidien à traverser l'épreuve de la maladie. Un témoignage recueilli par Mathias Terrier dans l'émission De Passage à Lourdes. Donc, écoutez, David, on vous retrouve dans quelques instants pour nous parler un peu plus longuement de ces journées Saint-François de Sales. Mais avant, l'essentiel de l'actualité, c'est avec nos jeunes de l'école de journalisme de Blagnac. Et c'est Lou que nous accueillons tout de suite.
Dans les prochains jours, le Sénat examinera une proposition de loi instituant un droit à l'aide à mourir. Dans ce contexte, les évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, dont Mgr Luc Meyer, évêque de Rodez, ont publié une tribune dans laquelle ils appellent les responsables politiques à mesurer la portée anthropologique et sociétale de leur vote. La mairie de Toulouse lance un appel à volontaires pour devenir assesseurs dans un bureau de vote lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la ville, rendez-vous directement sur le site Toulouse Mairie Métropole pour devenir assesseur. À Pamiers, dans l'Ariège, l'ouverture des parkings de l'esplanade de Miyane et du boulevard de la Libération est prolongée jusqu'au 4 juillet, date à laquelle sera réalisé un bilan d'évaluation sur la capacité de la ville à supporter cette fréquentation supplémentaire. Depuis début janvier, le service autonomie à domicile met en place un accompagnement personnalisé aux personnes âgées en situation de handicap ou fragilisées dans la ville de Auch. Ce service s'adresse aux 34 communes de l'agglomération du Grand Auch pour prévenir la perte d'autonomie et lutter contre l'isolement. Le syndicat département des déchets 82 défie les habitants du Tarn-et-Garonne de réduire de moitié leurs déchets annuels. L'objectif est de passer de 211 à 75 kg de déchets par personne et par an d'ici fin 2026.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui.
Présence dans la cité mariale, 96.
La cité mariale, il va en être question tout de suite, comme tous les lundis avec vous, David Torchala. C'est tout sourire que vous allez nous présenter.
Ah ben oui, parce que c'est beau de dire la cité mariale, moi j'aime bien.
Ça vous plaît?
Ah oui, ça me plaît
c'est
beaucoup.
C'est peut-être plus joli de dire que la ville de Lourdes a la cité mariale, et c'est vrai.
Eh oui, écoutez, c'est quand même un lieu d'apparition voilà, qui fait venir
qui
des millions.
Qui rayonne dans le monde entier.
Mais oui, c'est vrai, des millions de gens.
Bon, la publicité est faite, parlons des journées Saint-François de Sales. C'est quoi les journées Saint-François de Sales?
Vous voyez, la publicité, elle va continuer parce qu'il y a plus d'une centaine, peut-être même davantage, journalistes de la presse et des médias catholiques qui vont se réunir à Lourdes, à l'hémicycle du sanctuaire, à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Ce sont 3 jours pour penser, se questionner, réinventer aussi parfois une parole médiatique à l'heure où les repères culturels, religieux et sociaux se déplacent, on peut dire, en profondeur. Cette édition 2026 s'inscrit vraiment dans un cheminement intellectuel et spirituel déjà bien engagé. Ça fait bientôt 30 ans que ces journées de la presse se retrouvent. Alors, au départ, elles se tenaient à Annecy.
Vous allez vous poser la question de savoir si c'était toujours à Lourdes.
C'était une bonne question parce que, merci. Évidemment, à Annecy, c'est le berceau de Saint François de Sales. C'est le saint patron des journalistes. Et puis après, il y a de manière un peu plus récente, elles ont été organisées à Lourdes pour donner une ampleur plus internationale à ces rencontres. L'année dernière, au mois de janvier, c'était le jubilé évidemment de l'espérance. Il y avait le jubilé des médias. Donc ces journées ont été transférées à Rome. Et c'est le retour, en tout cas, à Lourdes. Voilà, c'est le retour à cette récente tradition. On a vraiment la joie de pouvoir les accueillir. C'est vraiment pendant ces 3 journées un temps de réflexion, ces dernières années, après s'être interrogé sur l'identité des médias catholiques, sur leur environnement, leur capacité à faire entendre leur voix, eh bien cette fois-ci, il y a une question qui s'impose, c'est médias catholiques, mais médias pour qui ? C'est vrai que ce sont des questions que nous nous posons également aussi sur notre antenne. À qui voulons-nous parler aujourd'hui, demain ? Et voilà, dans un contexte où le catholicisme français connaît des mutations à la fois discrètes, mais aussi profondes. Alors il va y avoir c'est très riche, le programme est très riche, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais vraiment des conférences plénières, des témoignages de nouveaux acteurs des médias, c'est bien aussi de bousculer les habitudes, des temps d'échanges, d'ateliers thématiques et vont jalonner en tout cas toutes ces journées. Et puis surtout mercredi, la conférence d'ouverture qui posera le cadre, celui de la transition minoritaire du catholicisme, ce qui est un défi majeur pour les médias qui veulent rester audibles sans renoncer à leur mission. Il y aura les témoignages de jeunes initiatives éditoriales, des podcasts, des magazines, des formats innovants. Je pense notamment aux Lueurs, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas les Lueurs, tapez ça sur votre site internet, c'est vraiment, il y a des formats en tout cas nouveaux qui sont assez intéressants à découvrir. Et puis viendront ensuite rappeler dans quel contexte ces médias évoluent, un contexte certes de fragilité, mais où la créativité et l'audace demeurent. Alors il y aura évidemment des temps forts spirituels, nous sommes dans la cité mariale et aussi institutionnelle, qui vont rythmer ces rencontres avec un temps de prière à la grotte, des messes qui seront présidées par le cardinal Jean-Marc Aveline, le président de la conférence des évêques qui fait le déplacement. Et puis aussi le très attendu prix du père Jacques Hamel, la remise du prix. C'est un prix qui distingue une œuvre journalistique engagée pour la paix et le dialogue interreligieux, qui nous rappelle combien l'acte d'informer peut devenir un véritable service de la fraternité. Et il y aura évidemment d'autres thèmes, l'intelligence artificielle, la polarisation des débats, le travail entre journalistes et communicants, et puis évidemment l'avenir de la presse papier. Y a-t-il encore une place pour cela, pour les journaux paroissiaux, etc., etc., etc. Je dis vraiment etc. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu pour ces journées Saint-François de Sales, en tout cas cette édition 2026 qui sera encore une fois riche, riche d'enseignements.
Et donc ça se déroule à partir de mercredi à l'hémicycle, là où sont les évêques en séance plénière.
Exactement, ils prendront le temps de ces journées, la place des évêques.
Cet hémicycle est important quand même du coup dans la vie du sanctuaire.
Cet hémicycle, c'est vraiment un lieu où il se donne de l'enseignement dans le sanctuaire. Voilà, nous avons des cycles, des propositions d'enseignement au sein de pèlerinages, au sein d'événements, et puis ça nous permet aussi d'accueillir ce type de colloques, de rencontres, parfois aussi universitaires. Vous savez, Lourdes est aussi un lieu où on enseigne beaucoup. Voilà, c'est un lieu populaire de pèlerinage, mais aussi on donne pas mal de matière. J'avais une question pour terminer, Philippe. Est-ce que vous savez pourquoi Saint-François de Sales est le patron des journalistes?
C'est une colle.
Je vous vois, mais je sais pas, non, parce qu'en fait, je me suis reposé la question en préparant cette chronique, et puis la réponse est vraiment super, parce que s'il fut l'un des premiers à utiliser l'écrit et l'imprimerie comme moyen de communication de masse, hein, parce qu'au début du XVIIe siècle, pour rejoindre des populations qui ne pouvaient pas toucher par la parole, eh bien, Saint-François de Sales rédigeait des textes clairs, accessibles et diffusés sous forme de petits feuillets, mais surtout, il a incarné l'éthique de la communication. Voilà, le dire la vérité sans violence, convaincre sans écraser, dialoguer sans polémiquer.
Mon Dieu.
C'est un grand saint.
Il faudrait remettre ça au goût du jour aujourd'hui.
Oui, mais c'est bien. Il est toujours, en tout cas, sur les bancs de l'école avec ceux des journalistes Saint-François de Sales, donc c'est très intéressant.
Et alors donc, mercredi, je vous représenterai Radio Présence
Oui, évidemment, et puis aussi pour le sanctuaire, vous savez qu'on accrédite entre 800 et 900 journalistes par an qui passent dans le sanctuaire pour réaliser un article, un reportage, etc. Donc on va aller revoir quelques amis.
L'actualité du sanctuaire, ça peut être aussi votre service, David, pour faire découvrir un peu les coulisses d'un service de communication tel que celui du sanctuaire, avec ce nombre incroyable d'accréditations que vous faites chaque année. Et à quoi sert le service de communication du sanctuaire dans ses journées, dans son année?
Oui, on s'inscrit vraiment dans cette tradition des années 70 où un bureau de presse donc a été créé ici dans le sanctuaire, parce que vous savez, même au moment des apparitions, il y avait déjà des journalistes qui étaient là, avec le fameux journal Le Lavedan, qui était le quotidien de l'époque et qui relate dès le 11 février la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette. Et puis cette tradition, elle ne nous a pas quittés. Et donc, c'est pour cette raison que nous continuons d'accréditer les journalistes et travailler avec eux.
Et aujourd'hui, vous en avez la direction de ce service ainsi que celle de la radio. Merci beaucoup, David. Ben, on se retrouve lundi. Vous nous ferez peut-être un petit retour de ce qui s'est dit, ce qui s'est raconté.
Ah oui, je vous fais un retour et puis je vous parlerai aussi des travaux, parce que dans ce calme de l'hiver en janvier, ça travaille.
Ça travaille. Et je vous dis, il se passe toujours des choses au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
Merci, bonne semaine à tous.
Et puis moi, je vous amène du côté de Tarbes.
Aux portes du Tarn, 97.9.
Bonjour Diego Rabal.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Plaisir de vous avoir ce matin. Alors c'est pas pour un jour un livre, un auteur, mais vous avez une maison d'édition, vous faites partie d'une maison d'édition que vous recevez régulièrement d'ailleurs dans vos chroniques littéraires. Arcane 17, en deux mots, Arcane 17, une petite maison d'édition. Alors quand je dis petite, c'est pas péjoratif, mais parce que je crois que vous avez aussi une annexe à Paris.
Oui, alors on est une petite maison d'édition dans le sens où nous ne nous comparons pas aux grosses maisons d'édition parisiennes ou autres. On est une maison d'édition en région, donc ça c'est notre positionnement. Nous avons donc un local à Tarbes où nous sommes trois bénévoles à fonctionner dessus, et nous avons un de nos bénévoles, membre du conseil d'administration, qui lui est à Paris et qui a une adresse parisienne pour pouvoir fonctionner sur Paris.
Oui. Ça aide d'avoir une adresse à Paris.
Ah ben oui, ça aide parce que je dirais on peut avoir des contacts beaucoup plus directs avec des instances avec lesquelles on peut travailler, puisque en termes d'édition nous sollicitons un certain nombre d'aides. Et aussi des collaborations. Alors on a des collaborations par exemple au niveau local, mais on a aussi des collaborations au niveau national avec des syndicats, avec des élus qui souhaitent faire connaître leurs actions. Donc on a ce niveau-là qui est intéressant, parce qu'on a des entrées grâce à notre collègue en région parisienne.
Quelle est un peu la marque de fabrique de votre maison d'édition?
Alors, on est une maison d'édition qui est totalement bénévole. Nous n'avons pas de salariés. Nous fonctionnons uniquement sur le bénévolat. Notre marque de fabrique, c'est plutôt l'engagement à gauche, un engagement humaniste. Et nous fonctionnons sur à la fois des essais, donc qui représentent en gros un tiers de notre catalogue, des essais politiques, des essais sociaux, et du roman. Et du roman policier et un petit peu de poésie, sachant que la poésie est un domaine assez acrobatique, puisque c'est relativement peu lu, et nous avons quelques bons poètes qui nous proposent des choses. Donc nous, on les sort, en sachant que c'est toujours des tirages plus limités que nous ne le faisons pour le roman ou pour le polar.
Voilà, tout le monde veut plus de culture, mais malheureusement, quand il y a des choses culturelles qui sortent, peu de gens l'achètent ou le lisent.
Oui, tout à fait.
C'est regrettable, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus vendu chez vous?
Alors, il y a deux. Nous, on a deux réseaux, enfin deux modes de vente. On a un premier mode de vente qui est un travail de collaboration avec des institutions. Par exemple, on a travaillé avec la Confédération nationale du logement qui nous a demandé de publier un ensemble de textes et de propositions sur le logement social, notamment. Donc là, c'est un contrat que nous avons passé avec eux.
C'est une commande qu'ils vous ont fait.
C'est une commande. Ils ont rédigé le texte. Nous l'avons travaillé comme un éditeur, c'est-à-dire qu'on a pris le texte, on l'a corrigé, on l'a mis en place, on l'a imprimé, et on en a vendu. Là, on a sorti, je crois, que quelque chose comme 5 ou 6 000 exemplaires qui ont été préachetés par la CNL pour ses besoins à elle. Et nous, de notre côté, nous utilisons un certain nombre de ces exemplaires pour le circuit normal que nous avons, qui est celui de notre diffuseur, un diffuseur qui est diffuseur national et qui est Pollen, et qui donc diffuse chez les libraires.
D'accord. Voilà. Donc il y a une précommande pour eux.
Alors il y a voilà.
Et vous aussi, vous en avez en plus qui vous permettent d'alimenter votre réseau.
Ça, c'est une des formes. Et puis la deuxième forme, c'est les gens qui nous proposent des romans.
Vous appelez un tapuscrit au départ.
Alors des tapuscrits, tout simplement parce que comme nous ne sommes pas tous sur place et qu'on n'est pas assez nombreux.
Tapuscrit, c'est quoi?
Tapuscrit, c'est en fait un manuscrit, mis à part que le terme de manuscrit renvoie à écrit à la main.
D'accord.
Ce qui était le cas jusqu'à il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, sauf exception, on a déjà eu un manuscrit qui nous a été proposé, où on a dit, soit vous le tapez, soit vous le photocopiez pour qu'on puisse le diffuser. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un texte tapé, soit au format Word, soit pour certains, ils nous l'envoient directement en PDF, donc on le lit.
D'accord.
On a un réseau de bénévoles autour de nous à qui on le propose, qui le lisent, qui nous donnent leur avis. Et en fonction de ça, on se réunit au niveau des 5 ou 6 membres de l'association et on définit celui-là on va le sortir, celui-là on le sortira pas, et donc on informe les gens pour leur dire si c'est parti ou si c'est pas parti, puis ensuite on leur fait un contrat, etc.
C'est-à-dire que dans tout ce travail que vous faites, vous lisez tout ce qu'on vous envoie et donc vous lisez et puis vous sélectionnez.
Voilà.
Certains, comme vous l'avez dit, ne seront pas pris.
Oui.
Et donc vous les informez, mais ceux qui sont pris, là va rentrer le travail de votre maison d'édition.
Alors à partir du moment où un livre, ou du moins un tapuscrit est sélectionné pour être publié, alors il y a plusieurs étapes. Il y a une étape un peu je veux dire que quand on sélectionne sur à la fois des critères d'intérêt, de proximité avec notre ligne éditoriale, c'est-à-dire plutôt humaniste, etc. Et aussi en fonction de notre échéancier de sortie, c'est-à-dire que vu notre force de travail, on est à l'heure actuelle entre 15 et 20 sorties par an. Au-delà, c'est mission impossible, on n'est pas assez nombreux pour faire le travail. Il faut aussi sélectionner. Et puis, il y a certains bouquins où on dit à l'auteur, ce sera pas en 2026, mais ce sera en 2027. Alors, il y a des auteurs, certains nous envoient des tapuscrits en voulant être publiés dans 15 jours. Donc ça, matériellement, c'est pas possible. Déjà parce qu'il faut le temps de lire, mais aussi parce qu'il y a un temps de production de l'ouvrage, hein.
Je crois que c'est un temps aussi de correction avec lui.
Quand je parle de production, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lance la production du livre. Donc la production du livre, ça commence par fixer une date de sortie. On commence par la sortie, hein. Fixer une date de sortie. Ensuite, quand on a la date de sortie, on va corriger le livre. Donc, on va faire appel à des correcteurs. Nous, on n'a pas, on n'a pas la possibilité de salarier quelqu'un comme correcteur dans le sens où on ne sort pas assez de bouquins.
D'accord. Donc c'est au coup par coup.
Au coup par coup. Ouais. On fait appel à des cabinets de correction ou à des personnes qui font de la correction. Donc, on a la correction orthographique. Cette correction va être validée par l'auteur. Hein. On a toujours un aller-retour avec l'auteur. Une fois que ça s'est fait, ça va passer en maquettage, donc construire l'empreinte qui va permettre de sortir le livre. Et une fois que la maquette est...
La couverture et tout ça, quoi.
Voilà, ouais. On fait l'intérieur, la couverture, la mise en page à l'intérieur, ouais. Éventuellement, s'il y a des photos, la mise en place des photos, les différents éléments de typographie qui sont faits, on fait les couvertures, et une fois que ça c'est fait, on envoie chez l'imprimeur. L'imprimeur va faire le travail de fabrication proprement dite, hein, c'est ce qu'on appelle nous la fabrication. Donc on a la production et la fabrication qui est une des étapes de la production. Et ensuite, on va faire le dépôt chez notre distributeur, qui, à partir de là, va répondre aux commandes, il va faire la publicité pour le livre, et il va faire le dépôt chez les différents libraires qui lui en feront des commandes. Donc ça, c'est notre chaîne, sachant qu'à côté de ça, nous, toujours dans l'étape de production, on a une étape de valorisation immédiate, qui est la diffusion de services de presse auprès de journalistes, auprès de certains libraires, que l'on connaît et que l'on veut, que avec lesquels on travaille bien, donc on leur envoie pour que ils aient pas le temps d'attendre le commercial de chez Pollen, mais qu'ils sachent que il est là, donc ça fait partie encore de la production de notre lectorat.
C'est passionnant, les coulisses d'une maison d'édition où vous nous aviez fait déjà quelques définitions, la vie d'un livre avant même que quelqu'un le prenne dans les mains, le lise, toutes les étapes, vous nous les aviez détaillées. Effectivement, c'est un travail colossal, entre ce que vous nous dites à début d'année, tout ce qui est administratif, parce qu'il faut l'administration, il faut gérer tout ça.
Comme dans toute association ou commerce, hein, c'est il y a cette dimension-là qui est une dimension lourde, parce que on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 100-120 000 euros. C'est pas énorme comme chiffre d'affaires, mais ça signifie des centaines et des centaines de factures. Ça signifie des dizaines de déplacements, etc., de nos auteurs, parce qu'on on prend en charge les déplacements de nos auteurs et tout. Donc ça représente quand même un gros tas de factures à trier, à vérifier, qu'on a bien sur le livre comptable, etc. Donc c'est un travail, là en gros c'est 15 jours de travail à plein temps, plus tout ce qui est de repérage des ventes, pour après dire aux auteurs, vous avez gagné tant à travers la vente de nos livres.
On termine juste en deux mots, alors très rapidement,
oui.
Un succès de votre maison d'édition qui...
Alors, un succès, c'est un livre qu'on a fait paraître l'année dernière. Alors, je vais en citer deux.
Oui,
allez. Un livre qu'on a fait paraître l'année dernière et qui est en fait une compilation de souvenirs de Jacques Ralite, qui était ministre de la Santé, me semble-t-il, sous Mitterrand. Et qui a été quelqu'un qui a énormément fait pour la culture. C'est lui qui a mis en place les états généraux de la culture, etc., dans les années 80, et qui avait laissé plein de notes que ses enfants voulaient publier, parce qu'il est mort avant de les avoir mises en forme. Donc c'est un travail qui a été fait par nous à partir de ses textes avec ses enfants, et donc il a été publié et qui part vraiment très très bien. Il y a eu plusieurs lectures de certains de ses textes par des comédiens de la Comédie Française à Avignon, etc. Donc c'est vraiment un beau succès littéraire pour nous, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et ça parle de culture. Et puis il y a un roman qu'on a sorti l'année dernière et qui est la collection de Mathilde, donc que dirige Mathilde, qui est une de nos collaboratrices, qui est bénévole aussi, et qui est une collection jeune public, jeune adulte, Et donc on a sorti le premier roman l'année dernière qui a eu un beau succès. Dans les deux premiers mois, il s'en est vendu plus de 1000 exemplaires, donc c'est un beau succès. On espère que ça va continuer et on espère que ça
comment
va donner lieu. Alors
s'appelle?
C'est It Feels Like Summer. Alors c'est un titre anglais, mais c'est une histoire qui se passe dans une banlieue parisienne où dans un collège ou dans un lycée il y a un attentat et comment réagissent un petit groupe d'amis par rapport à ce qui s'est passé, à la stigmatisation de certains, etc. Donc c'est un roman qui est écrit par quelqu'un qui a 24 ou 25 ans et qui vise les 15 à 20 à 25 ans, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle du young adult et qui a été un beau succès et on espère qu'on en aura d'autres parce que c'est une collection qu'on veut ouvrir.
Merci beaucoup Diego Rabal et puis
merci.
Comme d'habitude on vous retrouve le mercredi en compagnie de votre acolyte Philippe
Oui.
Rouny. Voilà. à très bientôt.
À très bientôt. À bien.
Si c'est dans la ville où je suis né, ou tout près de chez moi, je ne sais pas deviner à quoi ressemble ta voix. Et j'ai voulu l'écouter plus d'une fois. Mais quand on se verra, un jour ou l'autre, mais quand tu seras là. Sur tes doigts, au mieux il nous arrive de poser nos mains au même endroit. Je ne sais pas où chercher, mais j'ai compris parfois que j'aurais dû regarder devant moi. Mais quand on se verra.
Emmanuel Moir sur présence
à Pau 90.
Allez, on poursuit par le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Lou Denville de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour Lou.
Les évêques de France ont publié une tribune sur l'aide à mourir. Dans les prochains jours, le Sénat examinera une proposition de loi instituant un droit à l'aide à mourir. Dans ce contexte, les évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France appellent les responsables politiques à mesurer la portée anthropologique et sociétale de leur vote. Le CEF exprime son respect pour les personnes en fin de vie et sollicite des réponses humaines et médicales plus adaptées. Il demande une loi qui intègre l'égalité d'accès des malades aux soins palliatifs afin que les valeurs de dignité, de liberté et de fraternité soient respectées. La mairie de Toulouse lance un appel à volontaires pour devenir assesseurs dans un bureau de vote lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Les membres des bureaux de vote, assesseurs et bénévoles seront assignés à diverses tâches, contrôle d'identité, signature de la liste, démargement ou encore apposition sur la carte électorale du timbre portant la date du scrutin. L'étape la plus importante de cette mission constituera au dépouillement des votes. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la ville, rendez-vous sur le site Toulouse Mairie Métropole pour devenir assesseur. À Pamiers, dans l'Ariège, l'ouverture des parkings de l'esplanade de Millanne et du boulevard de la Libération est prolongée jusqu'au 4 juillet. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les habitants de la ville. À la suite d'importants travaux de piétonnisation, la municipalité a réinvesti un espace jusqu'alors inoccupé pour y créer un lieu de stationnement gratuit en centre-ville. Le 4 juillet, date du début des vacances scolaires, un bilan sera réalisé afin d'évaluer la capacité de la ville à supporter cette fréquentation supplémentaire. Un nouveau service dédié à l'accompagnement à la personne a ouvert ses portes à Auch. Depuis début janvier, le service autonomie à domicile met en place un accompagnement personnalisé aux personnes âgées, en situation de handicap ou fragilisées. L'objectif du SAD est clair, permettre à ces personnes de vivre à domicile le plus longtemps possible. Aide à domicile mais aussi soins infirmiers, de nombreux professionnels se sont déjà fédérés à ce projet pour apporter un accompagnement social, aider au repas ainsi qu'au déplacement ou encore pour l'entretien du domicile. Ce service s'adresse aux 34 communes de l'agglomération du Grand Auch pour prévenir la perte d'autonomie et lutter contre l'isolement. Le syndicat département des déchets 82 défie les habitants du Tarn-et-Garonne de réduire de moitié leurs déchets annuels. Le SDD 82 a dévoilé les chiffres 2025. 211 kg d'ordures sont générés par un seul habitant en un an. Le SMIOM moyenne Garonne est formel. On peut passer à 75 kg par an et par personne. Un autre appel a été lancé par la même occasion, mieux trier ses déchets à la source comme l'impose la loi anti-gaspillage. Le verre et le textile doivent être mis à part et des poubelles de compost ont également été distribuées en fonction des logements.
Voilà, merci beaucoup à Lou Denville qui est journaliste, qui a fêté surtout à l'école de journalisme de Blagnac. Merci à tous ces jeunes qui nous font l'information de notre belle région et qu'on retrouvera bien sûr dès demain. Tout de suite, on va retrouver Mathias Terrier pour le magazine De Passage à Lourdes. On va parler de la maladie de Parkinson quand la foi vient au secours de la maladie. Et puis à 13h, ce sera bien sûr le grand journal de toute la rédaction française de Radio Vatican. Merci de votre fidélité. Très bon appétit si vous êtes à table. Et puis si vous êtes sur la route, à nous écouter dans votre voiture, soyez très prudents.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nos invités sont Marie-Françoise et Michel Panhard qui ont cette liberté de témoigner sur le vivre avec la maladie de Parkinson. Puisque Michel, vous avez été diagnostiqué en 2016, je crois.
Oui, c'est ça.
Et il faut vivre avec. D'abord, vous avez eu ce temps de déni durant lequel vous refusiez d'accepter, en fait, parce que vous aviez une image, disiez-vous, du malade de Parkinson qui était une image dégradée. Et puis, vous avez basculé dans toute autre chose. Ça a donné lieu, d'ailleurs, à la composition, à l'écriture d'une chanson.
Oui.
Qui s'intitule « Parkinson, un mot qui résonne ».
Oui.
J'aimerais que vous nous en chantiez un extrait, si vous le voulez bien, Michel, parce que ça a marqué finalement un changement profond de regard, d'attitude sur cette maladie, sur votre condition. Je crois que vous me disiez que vous vous entraînez tous les jours, une heure par jour, à garder l'agilité des doigts.
Oui, c'est ça, oui.
Parce que c'est dur hein, de garder cette agilité des doigts,
oui, c'est ça,
la maladie étant là. Et donc là, vous l'avez composée en quelle année, cette chanson ?
Alors, je l'ai composée en 2016. Et je suis allé, donc, la nuit qui a suivi cette rencontre que j'ai eue avec l'association France Parkinson, qui est tous ces danseurs là, qui sont remplis de joie. Et j'ai pris rendez-vous avec la responsable de ce groupe, pour la semaine d'après. Ouais. Et je suis venu avec ma chanson. Et je lui ai chanté la chanson.
De... Ben voilà, vous allez nous la chanter.
Parkinson, c'est un mot qui résonne. Par ce mot, c'est ma vie qui détonne. Un vent nouveau m'emporte et je fredonne. Ma vie n'est pas monotone. De couplets.
Ouais, non, on a envie d'entendre la suite, mais c'est vrai que cette émission ne nous permet peut-être pas d'entendre tout votre répertoire, parce que je vois que vous en avez composé des chansons, Michel.
Je n'ose pas vous dire le chiffre, parce que vous allez dire il est prétentieux.
Non, mais dites...
Plus de 200.
Plus de 200 compositions. Et vous êtes autodidacte, en fait, en guitare.
Oui, surtout autodidacte. Là, j'ai eu du mal à faire mes accords, là, quand j'ai chanté. Mes doigts ne suivent pas toujours. Mais voilà, il faut que j'accepte aussi mes pauvretés.
Alors, vous êtes très accordés l'un et l'autre. Hein. On sent que vous avez l'habitude de chanter ensemble.
On travaille ensemble, oui.
Vous faites beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'initiatives, vous les prenez ensemble.
Oui, on fait beaucoup de choses ensemble.
Oui. Et en même temps, on a aussi notre indépendance. Hein.
Chacun son caractère, voilà, son indépendance. Voilà.
C'est très différent.
Oui, on a.
Je dis toujours, il faut vraiment qu'on s'accepte avec nos différences.
Oui.
Voilà, quand on a un couple, nos différences nous enrichissent.
Oui. Donc, vous avez été infirmier durant toute votre vie, Michel. Ça, c'est ce qui a précédé toute cette vie avec la maladie de Parkinson.
Oui.
Vous avez exercé pendant combien d'années le métier d'infirmier?
Dans les soins infirmiers, cadre de santé 10 ans, infirmier 22 ans. Ça fait à peu près 42 ans tout, dans les milieux hospitaliers, aux cliniques.
Un peu de libéral aussi.
Oui, j'ai fait du libéral aussi pendant 7 ans dans ma
carrière. Quel rapport vous entretenez avec la question de la personne humaine, de la place de la fragilité, de toutes ces questions aussi qui traversent nos sociétés aujourd'hui sur comment on accompagne les gens en situation de souffrance, de fragilité jusqu'au bout. Vous-même, vous avez vécu cette expérience avec votre maman que vous avez gardée à la maison.
Oui, elle est restée 12 ans à la maison. Et je l'avais les derniers mois de sa vie, même la dernière année, j'étais en soins palliatifs. Elle était en fauteuil roulant, donc je me suis occupé d'elle, j'ai lui donné les soins. Et Marie-Françoise, bien sûr, m'a beaucoup soutenu. Mais...
Ça peut paraître, dans notre société, un témoignage qui va à contre-courant, ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, quand même, on essaie de cacher la faiblesse. On essaie même de l'éliminer parfois, entre guillemets, sans vouloir éliminer les personnes, mais on veut reconstruire des êtres parfaits. Or, vous dites, Michel, je vis avec mes faiblesses et finalement j'en fais des forces.
Oui, c'est une force d'accueillir ces faiblesses, parce que on va à l'essentiel, on parle avec son cœur. On n'a pas besoin de paraître, il suffit simplement d'être. Et j'ai dit dans une des chansons, j'ai dit « La plaie que l'on voudrait cacher, car elle n'est pas cicatrisée, nous invite à l'humilité pour accueillir nos pauvretés. Et pourquoi porter une armure pour se préserver des blessures? Notre vulnérabilité a un parfum d'éternité. »
Marie-Françoise?
Oui, je voulais parler de ma belle-mère qu'on a eue à la maison, qui était effectivement en fauteuil roulant. et qui était une femme de la campagne, puisque les parents de Michel étaient agriculteurs, avec beaucoup de bon sens. Et à ce moment-là, on avait encore les enfants ados à la maison. Et elle a eu beaucoup de rayonnement. Tous les amis des enfants venaient la voir. Tout le monde l'appelait Mémé. Et tout le monde venait voir Mémé. Et elle a vraiment... elle avait vraiment un rayonnement, même auprès des jeunes qui venaient, des amis des enfants.
Oui, elle était dans la transmission de valeurs, sans s'en rendre compte.
Oui, avec un bon sens paysan, avec et puis une écoute, vraiment, quoi.
Ce que vous nous dites là, Michel, vous l'avez découvert de façon accidentelle, si je puis me permettre. Parce que au moment où vous rencontrez la foi, même votre métier, à chaque fois, en fait, c'est parce que vous trébuchez qu'il se passe quelque chose dans votre vie.
Oui, parce que je suis devenu infirmier par accident.
Oui, vous chute de vélo, grave.
Une chute de vélo, assez grave, oui. Je me retrouve à l'hôpital dans une salle commune où il y avait six patients qui étaient gravement atteints aussi. Et le premier jour, je me mettais sous les draps parce que je ne voulais pas voir, ça me faisait peur. Et au bout d'une semaine, j'ai observé. Je fais un stage d'observation et je me suis dit, mais c'est ce métier-là que je veux faire.
Et donc, c'est dans cette difficulté, après cet accident, que vous trouvez votre vocation d'infirmier.
Oui, exactement. Et je veux dire, j'ai un métier que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup fait d'accompagnement de personnes en fin de vie. Et j'ai beaucoup de témoignages sur... Je peux vous donner un témoignage un jour d'un accompagnement. Une personne qui était en fin de vie, et j'avais son épouse qui était dans une chambre... dans une chambre d'hôte, et la nuit où j'étais de garde, ce monsieur est décédé. Et je devais aller annoncer à son épouse que le décès de son mari. Et quand je suis arrivé, j'ai frappé à sa chambre. Quand m'a ouvert la porte, elle a compris tout de suite. Elle s'est jetée dans mes bras et s'est mise à pleurer. Et moi, très touché. On nous dit qu'il faut laisser ses émotions de côté. Mais je ne peux pas laisser mes émotions de côté. Là, j'ai pleuré avec elle. Et on ne s'est rien dit. Tout s'est passé en silence. Mmh. Et il se trouve que je reçois une lettre une semaine plus tard. Elle me dit que vos larmes m'ont fait du bien. Que vos larmes m'ont fait du bien. Une lettre vraiment très très belle lettre, mais c'est cette phrase que j'ai retenue, que vos larmes ont fait du bien. Et on s'était rien dit. Et ça a été un tournant dans ma prison, dans ma carrière de prendre soin des malades. Être à l'écoute, voilà, ne pas trop parler, mais savoir écouter. Qu'est-ce que le malade veut nous dire? Quel est son chemin de vie à lui? Et non pas nos idées à nous qu'on plaque comme ça.
Dans les quelques minutes qui nous restent, évidemment, on aurait pu consacrer beaucoup plus de temps à votre témoignage. Il nous faut parler de la communauté de l'Emmanuel.
Oui.
Parce que c'est aussi un peu l'histoire de votre rencontre à Aix-en-Provence, c'est ça?
Oui, à Aix-en-Provence, oui.
Vous avez d'abord beaucoup composé aussi la musique pour évangéliser, dans le cadre aussi de la communauté de l'Emmanuel,
oui.
L'évangélisation aussi et l'annonce de la foi auprès des enfants. Et ça aussi, ça a compté dans votre vie, cette vie d'apôtre.
Oui, en même temps, quand on s'engage dans la communauté d'Emmanuel, on s'engage aussi, on se donne pour la mission. La mission, elle est toujours omniprésente dans la communauté d'Emmanuel. Notre fondateur, Pierre Goursat, qui est vénérable, Pierre Goursat, nous disait toujours, allez mes petits totos, il faut y aller, il faut que ça brûle. il faut que l'amour transmettez cet amour de Dieu que vous avez reçu, ne le gardez pas pour vous. Voilà.
Marie-Françoise.
Et une des dernières fondations dans la communauté de justement Pierre Goursat, c'est la Croix Glorieuse. Eh bien, c'est... Ce sont toutes les personnes souffrantes qui sont dans la communauté, il y en a, atteintes de maladies comme Michel, qui ont une nouvelle mission, justement, d'offrir cette souffrance, d'offrir ça, pour pour ceux qui sont au front, pour les autres communautaires qui sont plus actifs, qui sont sur le front. Donc
oui, relier ceux qui sont en capacité d'avoir un peu de zèle, enfin d'être dans l'activité, à ceux qui ne le peuvent plus ou différemment.
Voilà. Parce qu'on se disait, beaucoup se disaient, j'ai plus les forces pour suivre le rythme communautaire, alors ma place n'est plus dans la communauté. Et alors que c'est totalement faux. Pierre Goursat a eu cette intuition de dire, mais non, vous êtes précieux pour la communauté, parce que vous offrez vos souffrances à Dieu, à Jésus qui est sur la croix, et lui il prend sur lui et il a la force de la résurrection. Voilà, c'est pour ça que elle nous conduit à la joie, parce qu'il y a toujours cette résurrection du Seigneur pour qui nous trace un chemin de vie.
C'est la résurrection aussi, Seigneur, qui nous trace un chemin de vie. Je propose qu'on termine sur cette phrase. Merci beaucoup pour votre témoignage à l'un et l'autre.
Merci.
Et puis on vous souhaite du courage quand même aussi, avec tous ces exercices physiques que vous faites chaque jour. Vous aussi, Marie-Françoise.
Je dis pas que c'est facile. Il faut tous les jours se prendre en main. Se dire, voilà, ben j'y vais. Et si ça peut donner du courage à tous
ceux qui nous voient ou qui nous écoutent.
Des malades qui ont du mal.
Ouais.
Voilà, il faut pas rester seul non plus. Il faut se faire aider.
Voilà. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mathias.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise et Michel. Marie-Françoise et Michel Panhard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, Mathias. Bonjour.
Nous sommes heureux de vous recevoir avec l'instrument de Michel, la guitare, que l'on voit à l'écran et que nos auditeurs vont pouvoir écouter dans quelques minutes, parce que vous êtes auteur, compositeur. Votre vie est marquée par la musique. Peut-être que d'ailleurs c'est un fil conducteur, l'évangélisation par le chant et la musique. Peut-être. En tout cas, vous avez beaucoup composé, accompagné même les petits et les grands sur ce plan-là. On va raconter l'histoire de votre vie qui est traversée depuis 2016 par ce qui est un choc, sans doute, vous nous le direz, la découverte pour vous, Michel, de la maladie de Parkinson. Et donc, vous allez aussi nous décrire votre vie de couple, votre vie ensemble avec cette nouvelle donne qui est pas rien quand même, toute cette phase du déni et puis la renaissance et la foi qui va s'exprimer à travers cette souffrance. Michel, vous avez exercé le métier d'infirmier, ça a marqué aussi votre vie. Quant à vous, Marie-Françoise, vous avez été éducatrice spécialisée, maman au foyer, vous avez 6 enfants. Et des petits-enfants ?
12
petits-enfants. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que malgré la foi qui vous habite depuis longtemps, lorsqu'en 2016... vous découvrez la maladie de Parkinson qui va vous ronger d'une certaine façon, ou va en tout cas vous diminuer. Vous êtes dans une incompréhension, un déni. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est un choc. C'est un choc. Ça a été un choc pour moi. Moi qui étais infirmier, qui accompagnait les personnes pendant très très longtemps, je suis passé de soignant à patient, tout d'un coup. Et j'avais une image très négative de la maladie de Parkinson, parce que les personnes qu'on avait à l'hôpital étaient des personnes qui, déjà, avec des symptômes bien, bien avancés. Et j'avais cette image-là. J'avais pas l'image de Parkinsonien heureux. Ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Et il a fallu une rencontre providentielle avec des membres de l'association France Parkinson pour changer mon regard.
C'est notamment une veillée à laquelle vous participez.
Oui, une veillée de... C'était un congrès à l'hôpital de Grenoble. À l'entracte, une trentaine de personnes, hommes et femmes, se sont mises à danser avec un petit orchestre qui jouait Il y avait trois instruments, dont deux médecins qui étaient aussi atteints de la maladie de Parkinson. Et ils ont montré une joie... une souplesse, ils étaient heureux, ça se voyait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. de voir là, cette joie qui habitait toutes ces personnes-là. Alors, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé mon regard sur la maladie. Je me suis dit, mais moi aussi, je peux être heureux. Voilà. Et quand je suis rentré le soir, enfin, avant de partir, je suis allé voir la responsable. Et je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on se rencontre. Elle m'a dit, on s'est donné rendez-vous pour la semaine d'après. Et j'avais entre-temps composé, la nuit qui a suivi cette rencontre, une chanson pour exprimer ce que j'avais reçu. Et le refrain, c'était ça. « Lève-toi, éveille-toi, fais de ta vie un chant de joie. La tristesse chasse-la, qu'elle ne gagne pas sur toi. » C'était vraiment un changement.
Marie-Françoise, évidemment, Michel a beaucoup changé. Il y a les questions physiques, les symptômes physiques de la maladie, dont on pourra parler au cours de cette émission. Mais est-ce que vous diriez qu'aussi, c'est une vie nouvelle, un caractère qui se refaçonne, qui change avec cette maladie?
Oui, tout à fait. Le caractère change. Alors, déjà avec la maladie, il y a une émotivité exacerbée. Et donc, on le voit, les larmes qui viennent facilement. Après, Michel a toujours été assez émotif, mais là, c'était...
Plus.
Voilà, multiplié. Et puis après, alors, je ne sais pas si ce sont les symptômes de la maladie ou si c'est l'effet des médicaments. Le caractère change. Et Michel était plutôt en retrait, plutôt un peu discret. Et maintenant, il est assez désinhibé. Par exemple,
il y a un côté, je peux avancer, j'ose.
Voilà, oui. Il ose, par exemple, aborder les voisins et leur dire, ah, ça a l'air sympa chez vous. Et du coup,
Michel, vous rendez compte de ça, que vous avez changé?
Oui, enfin, je suis beaucoup plus simple qu'avant.
Vous diriez que vous êtes plus simple?
Oui, voilà, je vois les choses avec beaucoup plus de simplicité. J'aborde les gens avec beaucoup plus de confiance aussi, d'aller vers eux. Avant, j'étais en retrait, c'est vrai ce que dit mon épouse Marie-Françoise. Et ça m'est même arrivé des fois d'aller à la pêche avec ma guitare. Je dis, si je rencontre des gens, je vais leur chanter des chansons. Et un jour, on était en campé, et puis je dis, je vais aller faire un tour avec ma guitare. Et je rencontre des gens qui étaient à se reposer. Il y avait une trentaine de marcheurs qui étaient assis à se reposer. Et je priais, puis je me dis, Seigneur, si tu veux que je leur chante des chants, donne-moi un signe. Et quand, au moment de passer, il y en a un qui dit comme ça, ah, vous pouvez pas nous jouer un petit air de musique? Alors je dis, ça pouvait pas mieux tomber. Je dis, ben, d'accord. Alors je m'arrête. Je dis, d'accord, je vais vous jouer un air de musique. Même, je vais vous chanter des chansons aussi. Il était très étonné. Et j'ai pris ma guitare et j'ai chanté trois chansons. Et après, j'ai demandé leur prénom et d'où à chacun. Et je me suis présenté. Je lui ai dit que je venais de Lourdes. Et c'est là qu'après que j'aurais dit, ben, quand je vais rentrer à Lourdes, je vais mettre un cierge pour votre groupe, pour chacun de vous, et je dirai une prière pour chacun de vous. Et ils sont tous restés un peu étonnés, mais ça les a beaucoup touchés, en fin de compte. Je continue ma route, et puis je m'assois dans un endroit, je continue à chanter, tout seul, et je me suis aperçu à la fin qu'il y avait deux personnes qui m'écoutaient, qui sont venues me dire merci pour les chansons. Voilà. Donc, c'est des choses que je fais facilement maintenant, de chanter.
Michel, on aura l'occasion, avec Marie-Françoise, de dans la deuxième partie de cette émission, de parler d'évangélisation, parce que la foi, la vie spirituelle, ça traverse toute votre vie. C'est très important. Oui. Mais il y a une chose qui nous étonne, qui m'étonne lorsque je vous vois là depuis quelques minutes, c'est que vous avez de la joie dans le regard, vous avez le sourire, il y a quelque chose qui rayonne. Ça peut paraître un peu paradoxal et même compliqué à comprendre pour des gens qui nous écoutent peut-être et qui nous voient, qui sont dans une souffrance qui les révolte, qui les empêche même de vivre, qui les enferme. On a l'impression que pour vous, alors permettez-moi de vous provoquer un peu, est-ce que c'est de la façade ou bien est-ce que vous vivez vraiment cette joie qu'on on ressent?
C'est pas de la façade du tout. Autrement, Marie-Françoise, tous mes amis, tous ceux qui me l'auraient dit, Mais c'est quelque chose que j'ai été complètement renouvelé dans ma foi. J'ai fait vraiment l'expérience de ma fragilité, de ma pauvreté. Avant, parce que j'ai fait beaucoup de vélos de compétition. J'étais plutôt attaché à la performance. Et là, j'ai accepté de ne plus performer, mais vraiment de goûter la beauté de ce que je vois. Par exemple, quand je fais du vélo, je regarde la nature maintenant. Avant, j'étais la tête baissée, et puis je fonçais, je regardais pas trop la nature. C'était vraiment ce qui me motivait, c'était justement le temps que j'allais mettre pour telle distance. Et maintenant, je vois les choses beaucoup autrement. Je prends le temps de... La prière m'aide beaucoup. Je prends le temps d'observer. Voilà, je prends le temps d'écouter. Voilà, c'est vrai que ça a changé ma vie.
Marie-Françoise, vous me disiez juste avant de commencer, nous sommes dans l'offrande.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a du lâcher prise ? Une espèce de détachement, sans indifférence hein, sur la vie, mais c'est quoi l'offrande dont vous parlez ?
Ben, voilà, ça c'est dur, je te l'offre, Seigneur, tout simplement.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas le déni de la souffrance. C'est quand ta vue humaine, on n'y arrive pas.
Et du coup, c'est presque un exercice de s'habituer à dire les petites contrariétés. Il n'y a pas que la souffrance, les contrariétés, ben, les offrir. Seigneur, je t'offre ça. C'est tout simple. Hein.
Alors, vous disiez que vous n'avez plus le sens de la performance, Michel, sauf que j'ai l'impression que votre vie, c'est quand même une vie d'activité, pas de suractivité, je ne sais pas, vous allez nous dire. Mais enfin, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous faites du vélo ?
Oui.
Ping-pong encore ?
Oui.
Guitare ? Tous les jours ?
Du chant.
Chant ? C'est important cette hygiène de vie, de dire je ne vais pas me mettre dans mon fauteuil, il faut que je me bouge.
Alors, je me bougeais déjà avant d'avoir le diagnostic de ma maladie de Parkinson.
C'était déjà votre caractère de vous bouger.
Je faisais des courses cyclistes,
oui.
Ce qu'on appelle comme l'étape du Tour de France avec des cols pour les cyclotouristes.
Oui.
Donc j'allais au vélo au travail, il y avait 18 km, mais j'y allais tous les jours au vélo. Et même quand il pleuvait, ça m'arrêtait, ça me freinait pas. Voilà. J'ai toujours été comme ça.
Mais aujourd'hui, peut-être que ça vous permet de lutter contre la maladie.
Justement, le traitement de la maladie de Parkinson, il y a bien sûr les médicaments, mais l'activité physique, c'est 90% du traitement, on dit maintenant. Vous vous rendez compte, 90%, c'est les neurologues qui disent ça. Parce que ça permet que les symptômes de la maladie ne progressent moins vite. Voilà, donc c'est une maladie dégénérative, la maladie de Parkinson. On ne peut pas la guérir. On n'a qu'un traitement palliatif. Palliatif, ça veut dire on soigne les symptômes de la maladie, mais on ne peut pas soigner la maladie elle-même puisqu'on n'a pas de traitement. C'est pas... Les recherches continuent, mais pour l'instant, on n'a pas de données précises. Et l'activité physique est très, très, très indiquée dans le traitement de la maladie de Parkinson. Alors, donc, je ne m'en prive pas, parce que là, je joue au ping-pong deux fois par semaine. Du vélo, j'en fais tous les jours. Souvent, on me voit dans les rues de Lourdes, mais je circule toujours en vélo. Et puis aussi, un peu de la marche. Et puis, tout ce que je peux faire, je le fais. Par contre, ce que je trouve maintenant, parce que ça fait 8 ans que je suis diagnostiqué, je mets plus de temps pour faire les choses, ça me demande plus d'énergie, voilà. Mais je me dis, il ne faut pas se décourager, donc il faut continuer.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission Témoignage avec Marie-Françoise et Michel Panhard. Nous marquons cette pause et juste après, nous nous retrouvons pour continuer à dialoguer avec vous.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Une délégation œcuménique finlandaise reçue par le pape ce matin en cette fête de la Saint-Henri.